Donc, je suis en compagnie de Olivier Dombré, directeur commercial de la Bragelonne Édition. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter, pour commencer, les ouvrages des auteurs qui sont présents en dédicace à la Japan Expo chez vous ?
D'accord, avec plaisir. Alors, nous avons les ouvrages de Sarah Hache, qui a écrit une trilogie qui s'appelle « Les larmes d'Artamon ». C'est une trilogie qui est de fantasy quasiment contemporaine, qui se passe dans un univers imaginaire, mais qui ressemble beaucoup à l'Europe du 19e siècle, mais avec une dimension de magie, de vampires et de dragons, qui marche très très bien chez nous. Et on a le grand plaisir de l'avoir ici parmi nous, parce qu'elle est britannique, donc elle a fait le déplacement exprès pour l'occasion et pour rencontrer ses fans. Nous avons aussi Patrice Lounet, qui est le grand spécialiste mondial de Robert Howard, l'auteur et le créateur de Conan, que à peu près tout le monde connaît dans l'imaginaire collectif, dont nous sommes en train de rééditer les textes de Robert Howard sous la direction de Patrice, parce que pendant très très longtemps, les textes que nous avions n'étaient pas les textes originaux, ils étaient caviardés ou modifiés par Sprague de Caen, qui est un autre auteur. Et donc on avait toujours une vision tronquée et déformée du personnage. Et là, enfin, on a les textes originaux dans toute leur pureté, leur perfection.
Ça donne quelque chose de plus épique ou au contraire de plus barbare ?
Ça donne quelque chose de plus barbare et de plus brut de décoffrage. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que les nouvelles de Conan n'ont pas été écrites dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que même la première nouvelle, par exemple, Conan est âgé, il est roi, et il va devoir déjouer un complot qui est mené contre lui. Et c'est une intrigue de cour, dans un palais. Et la deuxième nouvelle, il est tout jeune barbare, il est dernier survivant d'une grande bataille, et il est poursuivi par les vainqueurs. Et il doit faire pour cela traverser des déserts, enfin bref, tout l'univers de Conan, de cette mythologie qui a été créée ex nihilo par Robert Howard.
Sinon, vous avez un auteur qui est actuellement en dédicace, vous pouvez nous le présenter ?
Alors oui, il y a aussi Stéphane Collignon, qui n'est pas auteur mais illustrateur, un des grands illustrateurs très jeunes et très talentueux de la jeune génération qui arrive, qui a fait de nombreuses bandes dessinées avec plusieurs scénaristes et qui actuellement pour nous fait de nombreuses couvertures. Et son imagination, sa maîtrise des couleurs, sa parfaite connaissance de l'anatomie des personnages lui permettent de donner corps à des scènes qui sont vraiment phénoménales. À tel point que Stéphane, ses couvertures, on les vend dans le monde entier parce qu'elles sont, elles collent parfaitement à l'ouvrage, il a parfaitement compris l'esprit de l'ouvrage. Et finalement, c'est nos couvertures françaises qui illustrent les ouvrages américains, britanniques, allemands, voilà.
C'est assez rare pour le souligner, effectivement.
Oui, en effet, parce que nous, notre politique pendant très très longtemps, c'était de suivre ce que se faisait en Grande-Bretagne et aux États-Unis, parce qu'ils ont une approche vraiment ouverte sur le monde, vraiment pas prise de tête, pas élitiste, bien au contraire, beaucoup plus commercial, beaucoup plus simple, proche et accessible pour tous. De voir que les anglo-saxons sont actuellement en train de prendre le modèle de couverture, c'est vraiment très plaisant.
Vous avez pris comme choix de ligne éditoriale de sortir des collectés, des gros pavés avec des intégrales, etc. Ce que tout le monde salue et acclame et remercie énormément. Comment s'est fait ce choix ? Parce que c'est vrai que vous êtes le seul à faire ça, alors que certains autres ont tendance, eux, à découper des tomes originaux en plusieurs tomes.
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que fondamentalement, les ouvrages, ils ont été maquettés et prévus comme ça. Donc il y a une question de suivre la logique de ce que voulait l'auteur. Et la deuxième raison, qui est aussi sincère et réelle, c'est qu'il y a du respect du lecteur. Moi, j'étais lecteur à 14 ans, je lisais du Elric, je lisais les aventures de Faft et du souricier de Fritz Leiber. Je lisais les versions tronquées de Sprague de Caen, je lisais Dune. Et c'est vrai que ça m'insupportait quand la traduction était pas de qualité ou quand l'ouvrage était coupé en 2, 3 ou 4. Ce souci de faire quelque chose qui est agréable et de respecter le lecteur en lui donnant une histoire complète, c'est, je pense, une des clés du succès d'ailleurs. C'est ce qui permet aussi que les gens nous suivent et nous sont vraiment très très fidèles.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur David Gemmell, feu David Gemmell?
Oui, malheureusement, David, c'était un grand gaillard vraiment exceptionnel. Moi, j'ai eu la grande chance de le rencontrer 3 fois. Et les 3 fois, c'était vraiment une super expérience. La première fois, j'étais extrêmement intimidé par ce grand personnage qui avait un regard glacial et vraiment très pince sans rire. Et puis très rapidement, il m'a déstressé, il m'a dit « calme-toi, tu sais, je vends beaucoup, mais je suis un mec très très naturel ». Et c'est vrai que ses bouquins, il mettait énormément de lui, enfin, il avait une énorme sincérité dans son écriture. Nous, quand on a appris malheureusement sa mort, qui est très malencontreuse et accidentelle, et c'est un arrêt cardiaque, c'est des choses qui arrivent. Il a une mort d'écrivain, entre guillemets, c'est qu'il s'était levé pour continuer d'écrire son roman. Et un petit peu avant, il avait parlé avec son épouse, et justement, il avait fait le bilan de dire qu'il avait vraiment une vie très agréable, et qu'il avait fait tout ce qu'il voulait faire, et qu'il était un homme très très heureux. Et paf, le destin le rejoint. Donc chez nous, la dernière série qu'il a écrite, c'est la trilogie sur la guerre de Troie. On a publié le premier tome, là. On publie en octobre, je crois, le deuxième, et en milieu d'année prochaine, le troisième. Le troisième qu'il n'avait pas achevé, il avait écrit les deux tiers du roman, et c'est son épouse Stella, avec qui il travaillait depuis très longtemps, qui l'a terminé. Et on est tous très tristes de sa disparition. Mais il laisse une œuvre qui est tellement considérable, et il a tellement de fans, et il a vraiment marqué, je pense, l'imaginaire collectif de toi, de moi, de plein de lecteurs. Malgré la grande tristesse qu'on a de le voir disparaître, quand je parle de lui, c'est plein d'espoir, c'est plein de bonheur. David Gemmell, à l'époque, je ne travaillais pas pour Bragelonne, j'étais juste un copain. Alain, le fondateur, m'avait passé les jambes, il m'a dit « Tiens, lis ça, tu vas voir. » Tu verras, c'est génial. Bon, ok, je l'ai lu en me disant bof.
C'est sûr que le coup de je suis bûcheron, j'ai une hache et je deviens un gros guerrier, ça laisse pas présager du meilleur.
Ça laisse pas présager du meilleur, mais c'est le premier bouquin que j'ai commencé à 8h du soir et que j'ai fini à 6h du matin en me disant mais quelle claque phénoménale. Et depuis, je suis un grand fan de David Gemmell et à chaque fois que je le lis, je retrouve cet héroïsme, ce personnage totalement. Incroyables, qui se surpassent, qui se subliment, et pourtant qui sont des gens normaux. J'adorais David. C'est un mec super. Enfin, c'est tellement con, c'est vraiment absurde quoi.
Pour revenir à des choses un peu plus gaies, vos autres séries en cours qui vous tiennent particulièrement à cœur
C'est intéressant parce que on a parlé de David Gemmell, mais il y a aussi Terry Goodkind, ou Raymond Fest, ou Terry Brooks, qui sont des auteurs très reconnus, qui ont écrit depuis des années, des années, des années, qui ont un catalogue très important. Et ma grande peur, c'est qu'on n'ait pas de renouvellement de ces auteurs et qu'on doive vivre sur des auteurs qui ont 20 ans d'écriture et de livres derrière eux. Et en ce moment, depuis 2-3 ans, il y a un renouvellement totalement incroyable d'auteurs et de lectorat. Je t'ai parlé de Sarah H. La Sarah H, ça cartonne. C'est une fantaisie qui est tout à fait novatrice. C'est vrai que ça se passe entre l'Europe et la Russie du 19e siècle, mais avec en même temps une dimension magique, un univers à part, et une dynastie qui a une malédiction de porter le sang du Dracaul en elle. Et quand j'ai lu ça, ça fait très très longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi bon. On a Fiona McIntosh qui a écrit une trilogie, qui est la trilogie du Dernier Souffle, qui a une magie et une histoire très subtile, avec une écriture de très 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 grande qualité. C'est vraiment très littéraire, mais pas inaccessible, bien au contraire. Et en même temps, une histoire de trio amoureux, complexe. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il y a énormément de rebondissements dans cet ouvrage, enfin, dans cette série d'ouvrages, qui est extrêmement, extrêmement prenante. On a aussi Trudy Canavan, qui a écrit un roman, une trilogie, qui ressemblerait d'une jeune femme qui arrive dans une académie de magie. Et au début, ça paraît un peu classique, on a lu tout ça. Et puis très rapidement, elle aborde des thèmes qu'on ne voit pas dans la fantasy et qui renouvellent le genre là aussi. Par exemple, c'est bête, mais dans la fantasy, il n'y a pas de genre homosexuel. Et là, il y a un des magiciens est homosexuel. Il y a le méchant au début, qui est caricatural du méchant. On s'aperçoit que non. Finalement, il porte un lourd secret sur lui, qui est le haut seigneur. C'est des choses assez novatrices que je ne vois plus depuis très longtemps. Et puis pour continuer, je sais pas, il y a James Clements, qui a une trilogie qui marche mais vraiment très 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 bien auprès d'un public adolescent et adulte. Enfin, je dis adulte parce que moi je le lis avec énormément de plaisir et qui est un petit peu gothique, un petit peu sombre, un petit peu noir, qui est vraiment très très chouette. Là, mon dernier coup de cœur, c'est Le Faucheur de David Gunn, qui est plutôt de l'ASF ou du Planet Opéra. C'est Starship Trooper avec les chroniques de Riddick. C'est vraiment génial quoi.
Quelque chose de bien musclé.
Ouais, c'est musclé, c'est à la testostérone. Tu arrêtes pas quoi. C'est vachement bien fait.
Et dans les sorties prochaines, vous avez des petites choses. Est-ce que vous pouvez les annoncer?
Alors, qu'est-ce que j'ai de vraiment sympa? J'ai beaucoup de séries qui continuent. En novembre, j'ai quelque chose qui va vraiment, vraiment changer beaucoup de choses. D'une auteure britannique ou américaine, je ne sais plus. Ça s'appelle Jacqueline Carey, qui s'appelle la série Cushel, qui est, à mon avis, très attendue, très, très chouette, hein, parce que c'est de la fantasy, mais c'est un peu sulfureux, c'est un peu érotique, c'est un peu nouveau, c'est tout à fait novateur. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose comme ça. Donc ça risque sympa. Il y a un nouveau genre littéraire qui vient des États-Unis et d'Angleterre et qui débarque en France, qui est la beach lit, qui est une littérature plutôt féminine mais qui est contemporaine, avec des éléments magiques comme des vampires, comme des loups-garous, comme des magiciens. Et là, on a deux auteurs chez nous qui sont Kelly Armstrong et Kim Harrison. Et ce genre va vraiment très très bien marcher en France parce qu'il est back-upé par des séries télé qui vont aussi venir, puis par des films au cinéma. Puis il y a quelques auteurs qui marchent très bien, qui existent déjà, comme Laurel K. Hamilton, comme Stephanie Meyer, comme Charlene Harris. Donc voilà, ça c'est un mouvement de fond. On voit juste arriver, mais c'est vraiment une lame de fond et ça va déferler. Et quand je dis que c'est féminin, bon, moi je l'ai lu et je prends du plaisir à lire, quoi. C'est agréable.
Un mouvement qu'on pourrait assimiler à l'urban fantasy ou pas vraiment?
Alors, la urban fantasy est un peu plus, entre guillemets, éthérée, poétique et fantastique. Là, c'est un peu plus... les vampires, ils ont des poils et c'est assez différent, quoi. Donc, en effet, la fantasy urbaine existe. Mais c'est pas cette fantasy... Les vampires, il faut qu'ils bouffent, quoi. Ils sont pas ces complexes de « tu comprends, je t'aime, machin, je suis amoureux d'un fantôme et je vis dans un cimetière ». C'est plus actuel, c'est plus aujourd'hui. Hein. C'est les vampires qui utilisent le téléphone portable et qui utilisent Internet.
Plus dans l'esprit un petit peu de Underworld, le film, même si le film, le premier, n'était pas extraordinaire.
Ouais, t'as mis le doigt dessus. Voilà, Underworld, Charmed, Buffy... Tout ça, toutes ces séries télé, ces films qui marchent très bien, c'est cette veine, c'est cette même veine, cette même génération, et c'est très plaisant. Par ça d'un côté, ça va bouleverser un peu le paysage éditorial, comme l'a fait par exemple pour le thriller, tout ce qui est le thriller ésotérique qui a été lancé par le Da Vinci Code, et qui a complètement relancé le thriller, et bien la beat lit, donc c'est la littérature beat qui mord, c'est ça qui va vraiment cartonner.
Pour retrouver toutes ces informations, le plus simple, c'est votre site internet, je suppose.
Oui, on a le site brajlon.fr. Venez, vous êtes toujours plaisants. Et en tout cas, moi, je te dis merci beaucoup pour ton interview. Ça fait très plaisir. On garde le contact.
Bien sûr, et merci.
Merci, à bientôt.